écoutez Aligre FM 93.1. De l'huile sur le jeu. Une chronique par Antoine Marsay. Les sentiers de la contemplation. Une petite histoire du pyrénéisme. Pourquoi voulons-nous grimper ? Qu'est-ce qui pousse les hommes à toujours vouloir planter leur drapeau au sommet ? Une question aux réponses aussi multiples qu'insuffisantes. Mais en y regardant de plus près, il n'y a pas qu'une seule façon de gravir une montagne. Si la grimpe s'est vue affublée du nom d'alpinisme, du nom du massif qui l'a vu naître, il ne s'agit que du versant le plus sportif, spectaculaire, un terme quasi hégémonique. À d'autres altitudes, dans les Pyrénées, quelques amoureux des colosses rocheux ont cherché à rendre leur parcours en montagne plus introspectif et esthétique. Géologues, écrivains, pasteurs, botanistes, photographes, mais avant tout épris des Pyrénées, ils ont choisi de laisser errer leur esprit et d'emprunter les sentiers de la contemplation. Dans les années 1780, Louis Ramon de Carbonnières, un géologue et botaniste français, s'installe dans les Pyrénées. Curieux de connaître la formation géologique des montagnes du massif, il parcourt les zones les plus hautes de la chaîne, en escaladant notamment le pic du Midi de Bigorre en 1787, avant de sillonner le grandiose cirque de Gavarnie. Né de cette pérégrination à fort dénivelé, un livre, intitulé « Observations faites dans les Pyrénées » en 1789. Malgré le caractère essentiellement scientifique de l'ouvrage, la montagne, et le massif pyrénéen en particulier, y sont présentés comme le fruit d'une construction singulière, vivante et complexe, laissant entrevoir une approche poétique qui déborde le seul cadre de l'analyse géologique. Au XIXe siècle, alors que les Pyrénées connaissent un essor du tourisme thermal et profitent de la construction de nombreux axes routiers, de nombreux aristocrates et bourgeois se lancent à l'aventure et à la découverte du massif. Contrairement à leurs homologues alpins, ces grimpeurs ne cherchent pas à explorer méthodiquement la chaîne pyrénéenne. Ils allient le plus souvent l'ascension à l'écriture, tendant ainsi à substituer une démarche introspective et artistique à l'esprit de conquête qui plane sur les plus hauts sommets d'Europe. De nombreux auteurs, comme Henry Russell, vont ainsi noircir le papier pour s'étendre sur toutes leurs émotions et réflexions éprouvées dans l'ombre de ces colosses étincelants. Membre de ce qui sera plus tard appelé la Pléiade par le mémorialiste Henri Beraldi, Russell va inscrire le récit montagnard dans le mouvement romantique, conjuguant l'excellence physique, l'esprit de découverte et la volonté de connaître à la fois les choses et les gens. C'est donc sa génération, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui développe réellement la découverte de la montagne au carrefour de la déambulation et de la contemplation. À la fin du siècle, Henri Beraldi, profondément marqué par ce mouvement d'exploration du massif, lui donne le nom de pyrénéisme. Pas tout à fait un sport, ni juste une idée, le pyrénéisme se présente encore aujourd'hui comme un objet assez insaisissable, caché entre un émerveillement et une identité. Une découverte sans jamais être une conquête. Selon Beraldi, l'idéal du pyrénéiste est de savoir à la fois ascensionner, écrire et sentir. S'il monte, écrit et sent, il laisse un vrai livre. Admirable. On décèle ainsi une vraie attention à ce qui est partagé, médiatisé. Le grimpeur ne doit pas seulement s'étendre sur le parcours, ses techniques ou ses difficultés, mais rendre compte d'un univers en forme de mosaïque. Le ruissellement de l'eau, la lumière éblouissante du soleil et le silence éloquent de la roche. Au final, le pyrénéisme, pour ceux qui en sont les architectes, prend presque la forme d'une éthique. En témoignent ces quelques mots d'Henri Russell dans son ouvrage Pyrénaïca, paru en 1902. Le montagnard est tendre, car la nature, son modèle et sa sœur, l'est toujours. La tendresse est sa note dominante. mais il est presque aussi sauvage que tendre, et il lui reste toujours quelque chose d'abrupt, d'inaccessible et de rugueux. Son âme s'entoure de précipices, de solitude, et même de neige. Mais alors elle a froid. C'est un avertissement du ciel. Quand on en est arrivé là, on touche à la misanthropie et même à l'égoïsme. On est en mauvaise voie. On ressemble trop à une montagne et il vaut mieux redescendre dans la plaine. Il ne faut pas se singulariser jusqu'à glacer son cœur. Un autre effet de la montagne sur l'homme qui s'en éprend, c'est de le rendre rêveur, mélancolique, et de le dégoûter de bien des choses qui passionnent ici-bas. Comment ne pas se détacher un peu des joies bruyantes, des faux plaisirs et de la politique, après s'être enivré de liberté sur des savanes de neige à 3000 mètres au-dessus des ennuis, des tristesses et des chaînes que nous impose la tyrannie du monde. Vu de si haut et de si loin, les dynasties, les républiques et les empires perdent de leur charme et de leur intérêt. Ça ne fait plus d'effet. On n'y pense plus. Et on trouve même que les roches sont plus sages que les hommes, car aucun d'entre eux ne cherche à prendre la place de son voisin.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.